Chapitre 20. Après la visite de maître Béquillard et de Maurice, M. Veil n'avait plus donné signe de vie. Quand il avait projeté de rendre un service et qu'il n'avait pu le faire, il en gardait toujours rancune à ceux qui le lui avaient demandé, comme s'ils avaient su d'avance que c'était impossible et qu'il lui avait ainsi manqué d'égard. Pourtant, en juillet, il pensa qu'il devait rendre visite à Simone, non pour lui raconter ce qui s'était passé, ceci étant assez clairement exprimé par son silence et n'offrant plus aucun intérêt, mais pour renouer. Du temps que sa femme vivait encore, il avait, comme les abricots, passé lui aussi quelques fins d'été à Fontbonne. Il s'était alors lié avec un petit châtelain des environs, le comte de Bray, homme sans fortune, faisant l'élevage des poules et au courant de tous les petits potins de la région. Il lui téléphona pour lui dire qu'il viendrait déjeuner mardi. Il se rendait bien compte que c'était Simone qui l'eût dû prévenir. Mais il était de ces hommes qui redoutent les tête-à-tête avec des gens trop heureux de les recevoir. Il avait peur d'être retenu, de s'ennuyer. Une journée à la campagne n'est acceptable qu'avec un emploi du temps très rempli. Il arriverait à 1 heure chez le comte. Il téléphonerait à Simone pendant le déjeuner pour lui annoncer sa visite. À 2h30, il ferait en voiture une promenade dans les environs et à Fontbonne pour voir s'il y avait des changements. À 3h30, il se rendrait chez les Digoin. À 5h, au plus tard, il rentrerait à Paris. Le mardi matin, pourtant, il faillit se décommander. Le temps n'était pas aussi beau que l'avaient fait prévoir les journées précédentes. Il n'y avait pas un souffle d'air. Quelques nuages, bordés de blanc, tout effilochés de s'être arrachés à un orage proche, avançaient doucement dans le ciel d'un bleu épais. Quand l'un d'eux cachait le soleil, l'ombre et la lumière se confondaient, celle-là perdant de sa fraîcheur, celle-ci de sa chaleur. Au cours du déjeuner, M. Veil téléphona, comme il avait décidé, à Mme Charles Digoin. Elle crut d'abord qu'il lui téléphonait de Paris. Lorsqu'elle apprit qu'il était chez le comte de Bray, elle s'écria « Comment se fait-il que tu ne sois pas venu déjeuner à la maison ?» La première raison qu'il lui donna parut lui suffire. Elle dit le plaisir qu'elle aurait de toute façon à le voir. Elle ne fit pas la moindre allusion au fait qu'il aurait pu ne pas la trouver, puisqu'il ne l'avait pas prévenue. Elle avait connu beaucoup de personnes âgées et elle avait remarqué qu'elles sont trop fâcheusement impressionnées par les ennuis qu'on ne peut éviter pour supporter qu'on leur parle de ceux qui auraient pu arriver. Lorsque Digoin apprit que M. Veil viendrait goûter, son premier acte fut de dire qu'il allait sortir et qu'il ne rentrerait que pour le dîner. « Est-ce que tu perds la tête ?» lui demanda Simone. Elle avait pourtant évité jusque-là de présenter Charles à ses parents et à ses amis très proches. Elle n'avait voulu imposer son mari à personne. Mais si l'on venait chez elle, il fallait s'attendre à le rencontrer. « Tu resteras là » continua-t-elle. Il remarqua alors que, malgré l'importance qu'elle attachait à cette visite, elle ne donna aucun ordre particulier aux domestiques, ne fit faire aucun préparatif. Par un hasard contre lequel M. Veil avait pesté, ce mardi était justement jour de course. En prévision de la poussière que les voitures et les cars soulèveraient, Charles avait mis un vieux costume. Il ne fallait pas songer à le changer. Cela eût déplu à Simone. Charles porta une main à sa cravate. Il se sentait mal à l'aise. « Regarde-moi, dit-il, est-ce que vraiment il ne vaudrait pas mieux que je me change ?»« Ce n'est pas la peine. » Digoin savait qu'il était, dans l'esprit de sa femme, un de ces hommes dont elle disait qu'ils avaient des qualités profondes. Au moment où il allait se trouver en présence, non d'une relation quelconque, comme cela arrivait à Fontbonne, mais d'un ami véritable de Simone, il n'en était plus tellement sûr. Cet ami n'aurait pas les mêmes raisons que Simone de manquer de clairvoyance. Il comprendrait rapidement pourquoi tant d'années s'étaient écoulées avant que la possibilité de rencontrer M. Digoin lui eût été donnée. Il était un peu plus de 4 heures lorsque la voiture de M. Veil s'arrêta devant le chalet. M. Veil avait très bien déjeuné. Un poulet de grain tué de la veille, des légumes frais, des fraises cueillies le matin. Une ombre, des sardines et du vin, comme on en sert dans n'importe quel restaurant. L'accueil de Simone fut digne et chaleureux, celui d'une personne lasse d'aimer sans réciproque, mais qui n'en conserve pas moins son aménité habituelle. M. Veil témoigna tout de suite une grande sympathie à Charles, puis sembla désireux de visiter la maison. Mais l'animation de cette prise de contact apparut très vite superficielle. Ni Simone ni M. Veil n'avaient de réel plaisir à se revoir. Il semblait que de part et d'autre, on fût las de supporter les devoirs d'une amitié. L'était-on réellement, ou bien y avait-il une autre raison à ce subit refroidissement ? Toujours est-il que, très vite, ils renoncèrent à se plaire. M. Veil n'avait plus maintenant la moindre curiosité pour la manière de vivre de Simone et de son second mari. Il s'était réjoui d'observer des détails savoureux. Aucun ne se présenta. Le temps avait passé. Les abricours eux-mêmes, quoique intimement mêlés à toute une période de sa vie, ne l'eussent pas distrait davantage. Il se sentait comme chez les amis d'un ami. Le comte de Bray avait justement voulu le conduire chez une vieille dame. M. Veil avait refusé, avec l'énergie de ceux qui ont trop longtemps cédé à de telles invitations. Était-ce cet incident qui l'avait mis à son insu dans cette disposition d'esprit ? Probablement pas, car Simone ne se sentait pas davantage en train. Le sentiment d'être protégé, qu'il avait toujours réconforté en présence de M. Veil, ne se manifesta pas. Elle avait beau se souvenir des relations de jadis, des longues conversations, il demeurait un étranger. M. Veil avait eu la maladresse de dire à Simone qu'il venait exprès de Paris pour la voir. Aussi, quoiqu'il n'allât jamais contre son plaisir, s'imposa-t-il de rester jusqu'à 5h30. Il avait tâché d'apprendre par le comte quelle était la situation exacte de Simone à Fombonne, ce que le monde disait d'elle. Mais M. de Bray n'avait pu le renseigner. Il avait même ignoré que Simone habite à Fombonne. M. Veil en avait été surpris et déçu. Qu'est donc devenue cette famille habitant la grande propriété qui donne sur le champ de course ? J'ai remarqué tout à l'heure que les volets étaient fermés, qu'il y avait un grand écriteau sur la grille, à vendre ou à louer, dit-il pour amener la conversation sur un sujet distrayant. Simone ne se souvenait pas de cette famille. Est-ce que tu vois, Madame Exelmann ? Vous étiez bonnes amies, je me souviens. Simone fut cette fois plus loquace. Certainement, elle rencontrait Madame Exelmann de temps à autre. Elle rencontrait d'autres gens également. Elle n'avait aucune raison de s'isoler. Si elle ne jouait pas au bridge, si elle refusait toutes les invitations, c'était uniquement parce qu'elle n'avait pas envie de sortir. À 5h30, M. Veil se leva. Mais les courses venaient de prendre fin. Des automobiles et des cars passaient sans discontinuer devant le chalet. Il préféra attendre. À 6h, enfin, il prit congé. M. et Mme Digoin l'accompagnèrent jusqu'à sa voiture. Les préparatifs du départ furent longs et compliqués. Simone offrit d'aider M. Veil, mais il refusa, le chauffeur étant mieux au courant de ses petites manies. Finalement, il fut installé. Simone agita la main en signe d'adieu. M. Veil l'imita. Le chauffeur, qui ne savait pas s'il devait partir, se retourna. « Oui, vous pouvez partir, » dit M. Veil en continuant d'agiter la main. La voiture venait à peine de tourner dans la rue Saint-Corneille que Simone dit à Charles « Allons nous promener tout de suite. » Elle monta se poudrer. Il prit une canne à bout ferré. Un instant après, ils étaient dehors. Simone n'avait même pas voulu attendre que les quelques minutes qui rendent une séparation définitive fussent écoulées.